Radio Okapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. La Cour de cassation vient de casser l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe qui avait condamné Vital Kamerhe à 13 ans de travaux forcés et l'a renvoyé devant la même juridiction autrement composée. Les billets et les canevas des stages seront offerts gratuitement aux finalistes du secondaire et il n'y aura plus de frais dits de suivi ni de maquis pour préparer l'examen d'état. Ainsi en a décidé le directeur de la province éducationnelle du Kwilu. Notre invité, c'est Augustin Taïtunda. Cet expert en matière de paix et de sécurité a parlé des prochaines étapes du PDDRCS dont la stratégie nationale a été adoptée récemment ici à Kinshasa. Voilà pour les titres. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Jean-Noël Mokondo. Justice pour commencer votre journal. La Cour de cassation a cassé ce lundi l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe qui avait condamné Vital Kamerhe à 13 ans des travaux forcés. Et il a donc renvoyé le président de l'UNC devant la même juridiction autrement composée. Le président du collectif des avocats de Vital Kamerhe explique ici la décision de la Cour de cassation. La motivation et le statut de son client, maître Jean-Marie Kabengela, et au micro de Jeff Ngoy.
La Cour de cassation vient de casser l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe avec renvoi devant la même cour autrement composée. La Cour de cassation reproche à la Cour d'appel de Kinshasa Gombe d'avoir statué sur l'appel sur simple notification de date d'audience au lieu de procéder par voie de citation à comparaître. C'est un moyen que nous avions évoqué devant le juge d'appel sans nous avoir été suivis. Le juge d'appel avait statué en l'absence d'une citation à prévenir comme le veut l'article 104 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Et la Cour de cassation nous a suivis quant à ce et a annulé, a cassé avec renvoi la décision entreprise. Quant en ce qui concerne les statuts de notre client, il reste en liberté au régime dans lequel la Cour de cassation l'a placé. Notre client, s'il est sur place, il pourra comparaître, mais il est libre de comparaître ou de ne pas comparaître parce qu'il s'agit là du juge d'appel devant lequel la comparution personnelle du prévenu n'est pas requise.
Au sud Kivu, le président de la société civile environnementale se déclare vivement préoccupé par l'augmentation des crimes concernant des espèces menacées dans les aires protégées. Déclaration faite ce lundi après la saisie à Bukavu d'une trentaine de morceaux d'ivoire et l'arrestation de 4 suspects à l'issue d'une opération conjointe menée par la police nationale et l'ICCN. Josué Aruna plaide pour l'ouverture d'un dossier judiciaire à ce sujet. Il le dit à Cynthia Bachizina Bizana.
On s'est rendu compte que ces criminalités phoniques sont en train de prendre de l'ampleur, surtout au niveau du parc national de Kahuzi-Biega. Vous savez, la question d'éléphants, on les a perdus ici dans la haute altitude. Aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a des traces dans la basse altitude et ça serait de ce côté-là où ce braconnage est en train de s'opérer, c'est-à-dire là, du côté de la province du Maniema et aussi dans certaines forêts communautaires. Et la contrebande s'installe au niveau de la ville de Bukavu qui essaie un peu d'interagir avec d'autres réseaux qui se trouvent dans la sous-région. La société civile environnementale dans son ensemble est en train de demander que le procureur de la République, auquel le dossier est entre ses mains, puisse fixer rapidement, c'est-à-dire l'affaire devant le juge, pour que les responsabilités soient bien fixées. Parce qu'on a été saisi. Il y avait les 4 personnes, mais une personne serait déjà en liberté provisoire. Nous voulons suivre de près si ce dossier sera traité de toute transparence et nous mettons en garde toute forme d'influence.
Et puis au nord Kivu voisin, 44 condamnations pour crimes environnementaux ont été prononcées par la justice militaire de Goma entre janvier et mars dernier. C'est dans le cadre des procès organisés en audience foraine et ordinaire à Goma et dans les territoires de Masisi à l'initiative de l'ICCN. Pour en parler, retrouvons à Goma Bernard Denyangi.
Dans un point de presse samedi à Goma, l'avocat conseil du parc national de Virunga a indiqué que 14 condamnations ont été prononcées par le tribunal militaire de garnison de Goma en audience ordinaire entre janvier et février 2022, alors que 30 autres l'ont été à l'issue des audiences foraines du tribunal militaire de garnison et tribunal militaire de police de Goma dans les territoires de Rutshuru sur demande de l'ICCN. Parmi les condamnés figurent 5 membres de groupes armés accusés d'attaques sur les écogardes, indique Maître Lucien Mungantouari.
Les infractions sont notamment la participation à un mouvement insurrectionnel parce que beaucoup de groupes armés sont dans le parc. Il y a eu des peines de 5 mois, il y a eu des peines de 7 mois, de 24 mois. Donc l'idée ce n'est pas que les gens aillent mourir en prison, l'idée c'est que les gens comprennent que ce n'est pas un acte banal que de violer la loi sur la conservation de la nature.
Selon l'ICCN, au moins 800 personnes ont été arrêtées l'année dernière pour crimes d'envahissement du parc national de Virunga, du braconnage et trafic illégal des trophées des animaux protégés ou attaques sur les écogardes, entre autres. Si certains ont été relâchés par la suite après sensibilisation, 400 au moins seraient encore en détention dans différentes prisons de la province. Goma, Bernardin Yangi, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi l'arrivée cet après-midi à Goma du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, conduit une délégation composée de 5 ministres, dont ceux de l'Intérieur et de la Défense nationale. Objectif de la mission, évaluer sur place les avancées et les défis sécuritaires à relever en ce moment de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. D'autres précisions avec vous, Gabriel Ouamenia.
Le premier ministre de la RDC est arrivé en début d'après-midi de ce lundi à Goma. Samalukonde arrive dans un contexte où l'armée d'un côté s'affronte depuis 2 semaines dans les territoires de Rutshuru aux rebelles du M23 et dans les territoires de Masisi, la résurgence des attaques sporadiques des groupes armés qui met à mal la sécurité de la population. Le chef du gouvernement dit venir évaluer les avancées enregistrées dans l'état de siège au Nord Kivu, mais aussi apporter son soutien au FRDC sans en a précisé la nature. Samalukonde.
Notre but ici, c'est d'abord, bien sûr, premier, une évaluation de l'état de siège en cours, mais aussi apporter un message de soutien aussi à nos forces armées.
De son côté, la société civile du Nord Kivu précise que l'arrivée de Samalukonde inspire un espoir pour la fin des hostilités et le retour des personnes déplacées dans les territoires de Rutshuru. John Banyene.
Ce que nous attendons de l'arrivée du premier ministre, c'est de venir nous donner un ouf de soulagement pour que nous puissions recouvrer la paix et la sécurité qui est un droit pour nous, la population du Nord Kivu.
L'agenda du Premier ministre prévoit au finish plusieurs rencontres avec les acteurs sociopolitiques de la province ainsi que l'évêque du diocèse de Goma, Mgr Willy Ngumbi. Goma, Gabriel Ouamenya, Radio Okapi.
En plus bref, le général de brigade Robert Kasongo Maloba vient d'être désigné pour assumer les fonctions de commandant intérimaire du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Il remplace à ce poste le général de brigade Mputela Kolito qui est mis, lui, à la disposition de l'état-major général. Le chef d'état-major général des FARDC parlait d'une décision qu'il a prise dans le cadre de l'efficacité. Avant sa nomination à ce poste, le général de brigade Robert Kasongo Maloba dirigeait le secteur opérationnel de l'Ituri où il est remplacé par le général de brigade Nyembo Abdallah. Partons maintenant pour l'Ituri où au moins 17 personnes ont été tuées ce lundi matin par des présumés rebelles ougandais de l'ADF au village de Mangoussou situé à au moins 10 km de commando centre sur l'axe Mambasa-Kisangani. Selon des sources locales, ces rebelles ougandais fouillaient les FARDC au village de Chaoui Moria. À Bounia, le récit de Martial Kizabiamungu.
Les habitants du Mangoussou ont été surpris vers 9h locales ce matin par une colonne de présumés rebelles de ZADF en provenance de Chaoui Moria après avoir traversé les ponts Ituri. Selon plusieurs sources locales, à leur passage, ces rebelles profitant de l'absence de militaires FARDC dans ces milliers ont tué 17 personnes par balle et à la machette. La plupart des victimes sont des déplacés qui se sont installés à Mangoussou après avoir fui il y a environ une année les attaques ces mêmes ZADF dans leur milieu. Les porte-parole de l'armée à l'Ituri indiquent que les forces loyalistes sont intervenues et poursuivent l'ennemi en fuite vers la localité de Mukasali. Gilles Ngongo appelle la population au calme et à plus de vigilance. Selon lui, ces rebelles des ZADF sont à débandade après avoir été pourchassés dans plusieurs villages dans la chefferie de Walesevonkoutou. À Komanda Centre, des centaines de familles en provenance des pays Boleki et Mangoussou affluent en grand nombre. Une forte présence de l'armée est observée à Komanda et sa périphérie pour rassurer la population et parer à toute éventualité, indiquent des sources locales. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Revenons au Nord Kivu où 12 corps des civils ont été découverts ce week-end sur les collines surplombant la localité de Massambo dans les territoires de Beni. Le vice-président de la société civile locale parle des cultivateurs qui ont été tués par des présumés rebelles ougandais de l'EDF. Joël Kitsaoussa précise que 3 corps ont été découverts dimanche et 9 autres samedi dernier. Il fait remarquer cependant que la situation sécuritaire est imprévisible dans la région depuis l'attaque des rebelles ougandais de l'EDF survenue la semaine dernière. Après cette attaque, les assaillants se seraient retranchés dans les collines avoisinantes. Dans un autre chapitre, les billets et les canevas de stage seront offerts gratuitement aux finalistes du secondaire et il n'y aura plus de frais dits de suivi. Ainsi en a décidé le directeur de la province éducationnelle du Kwilu 1, Denis Changa, interdit également l'organisation des maquis pour préparer l'examen d'état. Il s'est confié à Irène Mboma.
Nous avons, nous à notre niveau, pris une instruction pour dire que cette année, il n'y a pas de maquis. Il n'y a pas de maquis, on ne peut pas aussi payer l'argent des canevas, on ne peut pas payer la lettre de stage. Donc tout est gratuit, pas question. Les billets de stage et les canevas se donnent gratuitement. Et nous avions demandé aussi aux élèves, pour les filles, cette année, il n'y aura pas de mèches, il n'y aura pas de perruques. Il n'y aura pas des uniformes avec fantaisie. Il n'y a pas de l'argent, ce qu'ils appellent le cinéma, l'argent des suivis. Il n'y en a pas. Donc, quand on attrape un chef d'établissement qui demande cet argent, en tout cas, sa place n'est pas dans une école. Parce que le professeur Tony Mwaba, notre ministre des tutelles, il a donné des instructions pour que nous puissions lutter contre les anti-valeurs. Nous avions demandé que les élèves qui ont déjà versé l'argent des canevas, l'argent des billets de stage, cet argent-là sera reversé comme à compte sur le frais d'examen d'État. Et je pense que dans les heures qui suivent, nous allons prendre des décisions pour pouvoir suspendre tous ces enseignants, tous ces préfets qui ont déjà perçu cet argent pour qu'il puisse servir d'exemple.
Faisons un détour pour le Maniema où le chef de secteur de BIA s'engage à accompagner les femmes dans divers domaines. Engagement pris à l'issue d'un atelier sur l'autonomisation de la femme rurale organisé à Binouimbi dans le territoire de Pangui. Les propos de Gilles Ouedi ont été recueillis par Florence Kizalunga.
Le secteur de BEA s'engage à appuyer moralement, matériellement et financièrement et accompagner les mamans du secteur dans les divers domaines d'intervention. Quant à leur autonomisation, le secteur compte perpétuer les campagnes d'éducation civique déjà entamées lors de nos plusieurs tournées d'inspection territoriale et les encourager davantage dans la mise en pratique des conseils leur prodigués pour le maintien de la stabilité de leur foyer afin qu'elles deviennent des leaderships féminins valables. Le secteur de BEA s'engage en outre d'appuyer et d'accompagner les mamans du secteur de BEA dans l'organisation des dossiers des différentes associations locales de développement. Il en est de même dans la création ou l'organisation des coopératives agricoles. En somme, les moyens de bord du secteur de BEA étant limités, ils sollicitent l'appui et l'accompagnement des hommes de bonne volonté, ONGD nationales et internationales et au gouvernement provincial et centrale dans les circonstances qui nécessitent leur assistance.
Actualité internationale.
Le chancelier autrichien est en visite en ce moment à Moscou. Karl Nehammer est le premier dirigeant européen à échanger avec le président russe Vladimir Poutine depuis le début de la guerre contre l'Ukraine. Samedi après-midi, Karl Nehammer, qui a rencontré également le président ukrainien Volodymyr Zelensky, a souhaité être un médiateur dans le conflit qui oppose les deux pays. Des gendarmes français sont arrivés ce lundi matin à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine pour assister leurs homologues ukrainiens dans les investigations des crimes de guerre commis autour de la ville de Kiev. C'est ce qu'annonce à la presse l'ambassadeur de France en Ukraine qui a été cité par l'AFP.
L'invité.
Notre invité, c'est Augustin Ntaïtunda, cet expert dans les questions de paix et de sécurité, parle des prochaines étapes du PDDRCS, dont la stratégie nationale a été adoptée ici à Kinshasa tout récemment. Il s'entretient avec Cynthia Bachizina Bizana.
Augustin Ntaïtunda, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Ça y est, le programme PDDRCS est entré dans sa phase active. À quoi faut-il maintenant s'attendre dans les provinces et particulièrement dans notre province ici du Sud Kivu?
Au niveau des provinces, il y a deux principales activités qui doivent suivre concomitamment. Très prochainement ici, il y aura déjà mise en place d'un cadre de concertation, de paix et d'appui au programme. Et ce cadre-là aura à son sein le gouvernement provincial comme modérateur, la coordination provinciale du programme comme comité exécutif, et secrétariat plutôt exécutif, et la société civile comme rapporteur, ainsi que d'autres organes, la conseillerie. Il y aura une deuxième activité très importante, c'est ce que nous avions appelé le plan opérationnel de chaque province, conformément aux réalités intrinsèques de la province. C'est grâce à ce plan opérationnel qui vient aussi alors en appui à la stratégie nationale. Et ce plan opérationnel va permettre alors aux différents partenaires de cibler l'axe. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il exécute? Qu'est-ce qu'il fait exécuter? Et ainsi, après ce plan opérationnel-là, il y aura d'autres activités subsidiaires. Donc, et je vous ai déjà dit que il y a des personnes qui déjà travaillent de comprendre la chaîne de ravitaillement des groupes armés, le financement des groupes armés, puisque si ces défis on ne les relève pas, nous allons tourner en rond, on va échouer comme les anciens programmes. Beaucoup de programmes, beaucoup de techniciens se limitent à relever les défis liés au chômage, liés, c'est pas au conflit élevé agriculteur comme cause sous-jacente. Actuellement, c'est l'enjeu économique. Nous connaissons. On ne va pas le dire aujourd'hui, les groupes armés, qui notre motivation de se battre contre aucun ennemi, mais ils se concentrent autour des sites miniers pour exploiter, ils deviennent comme une main d'œuvre économique pour exploiter illégalement, illicitement les minerais, et viennent, ils achètent, les motivent, et ils rentrent avec les minerais. Et tout ça, ce sont des défis, mais comme on les connaît, on pense qu'on va les relever facilement.
En parlant de pragmatisme, que prévoit ce programme-là? Aujourd'hui, vous êtes face à des gens qui se disent prêts à déposer les armes. Quelle est la suite leur réservée?
Oui, cette crainte est relevée souvent, mais je pense qu'il faut alors tenir compte du caractère innovant du programme. C'est pourquoi il y a les CS à la fin. Ce programme est exécuté pour la communauté, par la communauté, au compte de la communauté.
Mais ça veut dire quoi concrètement?
Cet aspect communautaire, l'ex-combattant, non seulement il est réinséré lui-même, mais le programme tient compte de sa propre famille, sa propre communauté, tous ses dépendants, afin que lorsqu'il est réinséré, il se sente encore accueilli, intégré. Donc, alors quelqu'un fait un mois dans le site de transition, vous lui donnez un vélo, ce n'est même pas un besoin de sa communauté, ce n'est même pas son propre besoin, et il va le vélo à $50 et il retourne dans la brousse. Mais en tout cas, le nouveau programme, dans son aspect communautaire et dans ses aspects innovants, est-ce que la communauté se retrouve elle-même? Parce qu'avec les affres de guerre, plusieurs personnes, non seulement les ex-combattants qui ont fui, mais les communautés ont perdu beaucoup de biens. Les communautés sont frustrées. Les communautés se sentent dans une situation de manque d'accueil, donc de rejet
social
des ex-combattants. Mais comment on concilie ces rejets communautaires et l'ex-combattant? Et donc on va le rendre utile, l'ex-combattant, en le rendant une main d'œuvre utile pour sa communauté.
Comment assurer alors la réparation des victimes?
C'est pas un programme de cahier de charges. Non, ça c'est refusé. C'est un programme qui tient compte aussi, dans ses piliers, il y a la justice transitionnelle. Et c'est l'un des mécanismes de réparation des victimes. C'est un programme qui donne de la chance à tout le monde de rendre les armes. Nous tenons compte de l'aspect volontaire de l'ex-combattant pour déposer les armes. Et donc l'État donne cette chance prééminente de demander à tous les combattants étrangers comme nationaux de déposer les armes. volontairement, s'ils ne les ont pas déposés, ils vont subir la rigueur de l'armée, puisqu'on ne va pas tolérer. Et tous ceux qui seront capturés, ils ne sont pas éligibles dans le programme PDDRCS.
Je vous remercie.
Merci infiniment.
C'était l'invité de Radio Okapi, Augustin Taitunda, expert dans les questions de la paix et de sécurité, qui parlait des prochaines étapes du PDDRCS, dont la stratégie nationale a été adoptée ici à Kinshasa. Tout récemment, il était interviewé à Bukavu par Cynthia Bachizina Bizana. Il est 18h20 à Kinshasa. C'est la fin de cette édition d'information coordonnée par Noëlla Luzi Tukabambi sous la supervision éditoriale de Martin Sebujangwe. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net.